Avant d'attaquer l'actualité de Knucklehead, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours artistique, s'il te plaît?
Du parcours artistique, tu veux dire quoi, de ce que j'avais avant?
Ouais, est-ce que t'as fait au niveau musical avant jusqu'à Knucklehead?
Rien du tout.
T'as commencé avec Knucklehead?
Ouais. Et ouais.
Non, non, mais écoute.
Bah après voilà, j'ai commencé par la guitare à 14 ans et puis ça fait 15 ans je crois ou 16 ans que je joue maintenant et puis voilà, et quand on a lancé Knucklehead, au bout de 2 ans à la base c'était 2 guitares. Du coup au bout de 2 ans j'ai dit écoute, je veux qu'il y ait plus de peps, donc je vais faire de la batterie. Donc on a acheté une batterie sur le Bon Coin, une batterie d'enfant. Et du coup, ça a commencé comme ça, je suis parti de ça.
D'accord, ok. C'est la nécessité qui a fait le choix de l'instrument. Enfin, tu t'es mis.
Je pense, ouais, c'était plus la batterie était un bonbon défouloir, et du coup, je trouvais que c'était beaucoup mieux de s'exprimer comme ça.
D'accord. Et donc, finalement, tu t'es resté sur, comme tu voulais justement un maximum d'énergie, t'es resté sur un kit assez simple.
Ouais, exactement, caisse claire, tom basse, grosse caisse, ride et charlet.
Et avec tout ça, on fait de la bonne musique, ça suffit.
Je sais pas si je fais de la bonne musique, mais bon, j'ai une particularité à ce qui paraît, on me le dit. En fait, je joue sur une batterie gaucher, mais je suis droitier.
Ah bah comme quoi, hein, pourquoi se compliquer la vie, hein?
Pourquoi faire comme les
C'est
autres?
ça. L'actualité très récente du groupe, c'est que vous avez fait une release party ou une soirée au Murphy's Café à Colmar.
Ouais,
Tu peux nous en
exactement.
parler un peu plus, comment ça s'est passé?
Ah bah c'était super, c'est l'endroit où on a commencé avec Knucklehead en fait. On a commencé nos concerts là-bas, nos premiers, et on s'est très 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 rapproché du patron du bar, et du coup on est devenu très très proche. Et voilà, ça a été ultra ultra blindé, donc c'était vachement vachement cool quoi. C'était une très très bonne soirée en tout cas.
Bon bah écoute, c'est essentiel. Juste pour savoir, vous êtes tous les deux alsaciens, j'ai vu, mais de Colmar ou des environs
Alors
ou...
moi je suis de Colmar et Jack il est de Sierentz, à côté de Saint-Louis, la
D'accord.
frontière alsacienne
D'accord.
verbale.
Ouais, moi je suis mulhousien moi-même, donc tu connais le coin.
Ah, c'est bien ça.
Bah oui, comme quoi, hein. Donc oui, je connais bien le coin et un peu la scène locale, Colmar et autres, quoi, donc c'est sympa.
Ouais, c'était cool. Bon, après, ce qui était dommage, c'est qu'à Colmar, bon, on pouvait pas jouer dans le bar. Ça a été une release party, voilà, juste pour passer un moment avec les fans. Mais voilà, on nous l'a tous demandé, mais bon, c'était top.
Ouais, mais il y a de belles choses qui arrivent à Strasbourg, à la Laiterie et autres. Les locaux, ils vont avoir un beau concert.
Ouais, bah j'espère, hein, j'espère en tout cas. Hein.
En
Et
tout cas,
puis on essaiera.
grande salle de la Laiterie, c'est déjà sympa, quoi.
Ah bah ouais, c'est clair. Genre j'ai halluciné hein. Quand j'ai vu le truc. Genre merde, ouais quand même. Ouais. Ah bah c'est bien sympa, dis donc.
Ah bah oui, parce qu'il y a de face. Enfin, faut déjà, faut avoir les fans pour le faire. Donc c'est une belle, un beau succès déjà pour le groupe.
Ah c'est clair. Non, non, c'est clair.
Vous qualifiez vous-même de musique de dark country.
Oui.
Enfin, pourquoi? Enfin, après je sais le jeu des étiquettes c'est toujours compliqué, mais ça vous semblait vraiment le plus. Je suis surpris par exemple que le mot stoner apparaît pas du tout ou je trouve qu'il y a
Oui,
plus d'éléments déserts, tu vois.
bien sûr, si je dois le définir, ce que je te dirais du dark country, c'est du stoner et de la country, ça c'est clair. Mais après, tu as toutes les influences qu'il y a derrière. Et en fait, tu vas retrouver du bluegrass, du synth rock, du heavy metal, du hard rock, du rock, du blues, du stoner, de la country, du sludge, du doom. Après, c'est à toi de voir la chose. Mais ce qui ressort en gros dans cet album-là, ça va être tout ce qui va être très country et tout ce qui va être très stoner, quoi.
Ah oui, et puis c'est je pense qu'on prend une belle claque à la première écoute, et puis plus on écoute, plus on découvre des choses. C'est plutôt sympa comme comment dirais-je, comme voyage dans des espaces lointains.
Ah, ça t'a plu l'album alors?
Ouais, honnêtement, ça, enfin, bon, on regarde la pochette, bon, on se dit, bon, elle est sympa, mais on sait pas trop à quoi s'attendre. On se dit, est-ce que ça va dark ou un plus gothique? Et puis après,
Ouais.
on met play, et puis une espèce de grands espaces, mais toujours ce côté sombre, un peu inquiétant qui apparaît. Non, ça a une belle gueule et ça passe tout seul, quoi.
Ah cool, ouais, ça fait super plaisir, putain. C'est cool, c'est chouette.
Avant cet album, justement, en 2016, vous sortez un premier EP pour vous faire connaître qui s'appelle First Ride. Qu'est-ce que tu, finalement, de cette époque-là, 2016, donc des débuts du groupe, en tout cas des débuts discographiques, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir?
Une époque, une très bonne époque, hein. Une très très bonne époque, mais on se cherchait un peu, et puis je vois une époque où maintenant, actuellement, on a grandi, où on a mûri, quoi. Du coup, je pense qu'on s'est vraiment trouvé aujourd'hui, maintenant, avec ce nouvel album. Et puis, voilà, j'en suis très fier. Mais très très bonne époque, hein. Gasoline, l'album 2, c'était le feu, hein. C'était super.
Et il vous a fallu cette progression, chanson après chanson, disque après disque, pour vraiment vous trouver et arriver à une certaine plénitude
Je
sur ce nouvel
pense.
album?
Ouais, je pense aussi qu'on n'osait pas trop faire ce qu'on était vraiment au fond, parce on était toujours très sombre, toujours habillé en noir, toujours dans le gros stoner, le doom, le sludge. C'était vraiment très très important, hein. Donc
D'accord.
je pense, ouais, que là on s'est bien trouvé, quoi.
Ouais, absolument. Finalement, quel processus de travail vous avez mis en place entre vous deux? Comment un nouveau titre de Knucklehead naît?
Chacun vient avec son idée de base, et puis après on la teste en live. À partir du moment où c'est travaillé en live, après on se dit, ah ouais, ça peut coller, on peut faire ça. Ensuite on attaque en pré-prod, qu'on fait nous-mêmes dans notre propre studio, et à partir de ce moment-là, après on compose les paroles, et puis après tu as musique de Knucklehead qui a 60% fini, et ensuite on travaille tout le reste en version studio finale à la fin, et puis après t'as le remastering.
D'accord. Vous êtes du genre à beaucoup composer pour beaucoup jeter, ou vous arrivez à travailler directement sur les idées qui ont le plus de potentiel?
On travaille sur les idées qui ont le plus de potentiel, mais quand on crée quelque chose, on ne jette jamais rien. Parce qu'il y a des riffs qui sont utilisables dans d'autres riffs, et c'est toujours très important de pouvoir mélanger tout ça, quoi.
Sur le nouvel album, là, tu te souviens quel titre vous avez finalisé en premier?
Ouais, on a travaillé exactement par ordre de l'avancée de l'album.
D'accord, la tracklist, c'est en fait l'ordre de sortie des morceaux.
Exactement.
Et est-ce que tu as le sentiment que le tout premier titre, d'une façon ou d'une autre, a donné une couleur au reste de l'album? Ou vous aviez
Ouais, je
déjà une vue
pense.
d'ensemble dans la tête?
Non, non, je pense. On a énormément étudié le chemin que ça pourrait prendre. Et pour moi, il est très bien construit à ce niveau-là. On a ce calme très pesant au début de Western Spaghetti pour attaquer sur un bon gros riff stoner un peu à la Monster Truck. Et après Cash, voilà, un petit peu un classique rituel. Et puis tout l'album avance comme ça. Jusqu'à Existential Anger, où là il y a vraiment le repos, voilà, tranquille. Et puis là les gens pensent que ça va être fini. En fait, il y a The Sword qui vient tout claquer avec sa country du début, et puis ce bon gros sludge doom stoner qui vient à la fin. Boum, quoi, ça met, c'est, moi je trouve l'ordre parfait, la construction parfaite en tout cas. Pour moi, à mon niveau.
Ouais, et donner à l'album le nom du premier titre, donc Holsters and Rituals, ça a été une évidence? Ou ça vous a discuté fort entre vous?
On a discuté de qu'est-ce qui pourrait définir comment on pourrait définir la dark country, donc comment on pourrait définir le style stoner, l'occulte et la country. Et on s'est dit, mais putain, mais Holster, c'est les vieilles ceintures de western, où ils mettaient les colts et tout. Et puis on s'est dit rituel pour la partie très très occulte, et puis après tu as toute cette espèce de pochette et cette police, cette nouvelle police qui est vraiment tirée de Conan, qui est du sludge, Stoner Sludge, et du coup t'as cette espèce de grosse harmonie un peu spéciale travaillée comme ça, quoi.
D'accord. Tu disais donc c'est beaucoup vous finalisez au maximum les morceaux chez vous en studio pour leur donner leur position finale. Finalement pour arriver à la sortie de cet album là maintenant en mars, vous avez commencé à travailler dessus quand?
C'est quel... on a bossé en studio en juin 2021. On a eu un mois de studio et la création, le tout début de la création de l'album, c'était il y a 3 ans.
D'accord, donc c'est la sortie là, c'est à la fin d'un processus de quasiment 3 ans.
Ouais.
D'accord.
Quand on avait déjà sorti 2, on avait déjà pensé à la suite.
Ok. Et donc vous avez bossé pour la production et l'ingénierie et le mixage avec Rémi
Gatif, ouais.
Pourquoi en particulier lui? Quelle est la valeur ajoutée qu'il vous a apportée?
Bah, il travaille à l'ancienne. Il est en analogique. Du coup, tout est enregistré sur bande. Et ça, t'as un son vraiment plus harmonieux. T'entends beaucoup plus de détails directs dans l'écoute. Et puis le fait qu'il soit pas très loin aussi. Et puis c'était parfait, même le cadre, la création, sa vieille grange, le machin, c'est tout un charme compris. Et puis il y a le personnage aussi parce qu'il est très gentil et il nous aide énormément à sur les compos, à changer un peu de temps en temps de style. Donc il participe aussi à la création un peu de cet album là.
D'accord. Tu disais l'apport de l'analogique qui effectivement donne un son plus chaud, plus agréable. Vous avez quand même fait quelques essais en numérique ou pas du tout?
Non,
vous aviez clairement des
logines. Voilà, quand on fait nos pré-prod, on est pas sur de l'analogique, mais quand on fait les pré-prod, c'est une en base. Et du coup, on sait que tout va changer. On veut pas travailler comme ça du tout. Du coup, c'est pour ça qu'après on termine. C'est pour ça que quand on finit une zik, nous-mêmes, sans le studio, elle est finie à 60%. Ensuite, quand on est en studio, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, là, on commence la recherche, la finition, les petits détails, voilà.
D'accord. Ah oui, donc vous laissez. Des choses à finaliser en studio pour voir justement comment ça va tourner.
Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Et du coup, c'est super parce qu'on a nos morceaux qui se transforment un peu et puis on a la surprise et puis on cherche toujours, hein. On est encore là au studio avec les grattes ou avec les trucs à se dire, putain, mais là, on pourrait mettre le mode, on pourrait mettre la guitare. Et voilà, et on check et puis, et c'est super, on a toujours le rendu direct et c'est génial, quoi. On sait que quand on fait, on finit l'album en pré-prod et quand on va chez Gatif après, il va être énormément modifié. On sait, c'est pour ça que c'est presque, un petit peu plus de la moitié des 60%, qui est sûr. Le reste, les 40 sont transformés. Hein.
D'accord. Et vous avez fait un enregistrement classique, c'est-à-dire commencer par la rythmique, batterie, etc. Guitare et le chant à la fin, ou vous avez un peu...
On travaille comme un show. Donc on branche les amplis de Jack, on branche la batterie, on fait le morceau sans le chant. Ensuite on met le chant et après on met tous les arrangements derrière.
Ah donc vous enregistrez en condition live?
Exactement.
Donc vous êtes déjà tous les deux à faire tous les instruments, quoi?
Exactement.
Guitare, batterie, quoi, ok.
Voilà, et après pour pas que tu aies le choc entre le nouvel album et le live, on met tous les arrangements en pré-sample qui fonctionnent par pédale sur les jambes de Jack.
D'accord. Ah oui, donc oui, c'est je vois, je comprends la démarche. D'accord, oui, c'est intéressant comme façon de faire.
Je
pense que ça vous correspond. Je
trouve ça plus sympa. Ouais, au moins les gens sont pas choqués. Ils ont pas la différence dans le live, tu vois, ou très peu en tout cas, parce qu'on reste que deux quand même. Mais ils ont pas trop la différence. Et là on a commencé à tourner le 24, du coup depuis c'est top parce qu'on a eu des retours de ouf, les gens, il y a des gens qui nous ont dit on a fermé les yeux, on avait l'impression que vous étiez 5 sur scène alors que vous êtes juste 2, quoi. Et ça c'est super, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, quoi.
Ouais, bah oui, c'est vrai. Sans qu'il y ait 50 samples qui démarrent en même temps, quoi, c'est ça, donc.
Exactement.
Tu parlais là Existential Anger qui a l'air de boucler l'album et alors qu'il y a deux sorts qui finissent. Vous mentionnez dans l'album donc la présence d'un invité.
Oui.
Pour sur ce disque-là, comment on décroche ce genre de participation? On essaye et puis le mec il dit oui, il dit non.
Non, et ben écoute, c'était improbable parce que avec notre patron, en fait, on était super fan de Blue Oyster Cult déjà, et du coup, ça a été incroyable. En fait, on en est venu, on parlait et tout. Et puis il me dit ouais, c'est quoi tes groupes préférés? Puis je lui dis bah Black Sabbath, Depeche Mode, Blue Oyster Cult. Il me dit ah, t'aimes bien Blue Oyster Cult et tout, j'ai aussi tous les vinyles et tout. Je lui dis putain, mais j'ai aussi tous les vinyles et tout. Et il dit en fait je les ai produits pendant 15 ans. Et du coup je fais ah ouais, ok. Et en fait quand on a créé l'album, j'ai appelé mon patron et je lui ai dit écoute, est-ce que tu crois qu'il y a moyen de faire un feat avec un des membres fondateurs de Blue Oyster Cult. Il me dit, bah écoute, je connais super bien Albert Bouchard. Du coup, je vais lui passer un coup de fil. Et il lui a passé un coup de fil. On a reçu le mail 3 ou 4 jours après. Et je me souviens, je me lève le matin, j'allume mon téléphone, je vois le mail, et je vois Albert Bouchard. Et il dit, ces mecs sont super, le son est dingue. C'est avec grand plaisir et un grand honneur de pouvoir participer à ce projet. Et du coup, lui, il était en train d'enregistrer son album à San Francisco, il me semble. Et du coup, on lui a envoyé la piste, il a mis sa voix dessus, il nous l'a renvoyé. C'était incroyable.
Ah oui, c'est... Et vous avez hésité sur le morceau à lui proposer ou vous saviez déjà que vous voulez Existential Anger?
Moi, je suis un gros fan de Blue Oyster Cult. Du coup, on a exprès fait ce morceau pour que lui puisse chanter dessus.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est plutôt D'accord, vous êtes adapté au fait d'avoir le mec, quoi.
Exactement.
Cool, bah écoute, super.
Sans savoir si ça allait aller, mais bon.
Bien sûr. Mais bah, ça fait d'autant plus plaisir qu'il est accroché, quoi.
Exactement. Ah, c'est ma plus grosse fierté de l'album, ouais.
Autre élément important, bien entendu, à part le fond, la musique, c'est les visuels. Donc, comme tu disais, visuel extrêmement soigné, bah, qui permet d'avoir un premier contact avec votre univers. Comment, en général, vous avez bossé la pochette? Je vois que c'est fait par un studio Vade Retro.
Ouais. En fait, ils nous ont demandé l'histoire du groupe, qu'est-ce qu'on voulait faire, et les nouveaux titres. Du coup, on leur a envoyé, et ils nous ont sorti une pochette, toutes trois sorties de l'espace, incroyable. Et nous, on a dit, ah ouais, mais c'est clairement le truc, quoi, hein. Du coup, on voulait que ça fasse un peu western, un peu monde post-apocalyptique à la Mad Max, un mélange de Tarantino et puis le côté église, religieux, machin, à l'intérieur, quoi, le côté occulte. D'accord. Et ça a donné cette espèce d'énorme pochette sublime. Ils ont fait un super bon travail.
Parce que c'est plutôt réussi, parce que c'est pas simple comme idée de départ. Avec le pitch, il est compliqué, hein.
Ah ouais, mais ils ont... ouais, bien sûr, ils font très bien leur travail. Enfin, je sais qu'ils travaillent énormément avec Kvelertak et Kadavar. Et puis ils ont fait quelques pochettes pour le Hellfest et pour le Motorcultor. Mmh. Du coup, voilà, ils ont quand même leur niveau, mais c'était un bonheur. Ils ont très 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 bien travaillé, hein.
Tu disais, toi-même fan de Blue Oyster Cult avec beaucoup d'albums et surtout les vinyles, c'est le nouvel album là, vous le proposez en différentes versions, en différents collectors entre guillemets. Ça c'est un élément important pour vous également de entre guillemets faire plaisir aux fans un peu old school qui aiment le bien.
Ah ouais, obligé. C'était obligé. Même si maintenant tu prends le CD, on s'est dit qu'il fallait que la fanbase soit content. Ou du coup, on a même mis des micro posters à l'intérieur. Parce que moi je sais que quand je veux, en fait on pense à nous avant. Moi je veux que quand j'aille acheter un vinyle, ou bon j'achète pas de CD, mais quand je veux acheter quelque chose d'un artiste, j'y vais parce que voilà, ça me fait plaisir. Mais quand t'as ce petit truc dedans, ce petit goodies en plus, ça te fait toujours plaisir. Et c'est penser vraiment pour les fans, on a vraiment, vraiment voulu leur faire plaisir au maximum, quoi. Donc ouais, bien sûr, c'était obligatoire de faire comme ça pour nous, en tout cas.
Ok, il en reste des éditions limitées ou faut se dépêcher?
Faut se dépêcher, je sais que le Trifold, il en reste très peu. J'y crois une dizaine, même pas.
Ah oui, et
le Gatefold, il y a plus de la moitié qui est partie, et puis le box, il y a la moitié aussi qui est partie.
Bon ben, avis aux fans, si vous n'avez pas passé encore, je fais chauffer la carte bleue, c'est le moment de le faire. Autre élément du visuel, donc vous avez proposé un enregistrement, en tout cas pour le clip au moins Burn.
Oui.
Quelque chose de là aussi, vous avez mis, on voit l'investissement, c'est très soigné, il y a un scénario pointu, jeu d'acteur, etc. Comment ça s'est passé en général? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'enregistrement du clip?
Le clip, en fait, il a été fait, on a tourné deux clips, en fait, en une fois. Parce qu'on a eu l'intro, en fait, aussi l'intro du clip qui était sorti. Et on a dû tourner les deux en même temps, c'était compliqué parce qu'il y avait des scènes, on a toujours les mêmes vêtements, mais Jack par exemple changeait de vêtements à certaines scènes et c'était super compliqué à faire parce qu'il fallait qu'on change d'endroit mais tout en adaptant à chaque fois le bon scénario, quoi. Du coup c'était super compliqué à faire.
D'accord, et parce que je vois que ça a été signé par un duo là, Steph et Manu.
Oui.
C'est des mecs que vous connaissez bien, enfin c'est des...
Ah oui, c'est pareil, on est une très grande famille. On a nos ingé son, nos ingé lumière, notre tourneur, notre manager, nos réalisateurs de clips, on garde toujours les mêmes en fait.
D'accord, donc...
Et du coup Stéphane Hervé et Manu Fora, voilà, ils ont commencé par Gasoline, et du coup ça a toujours été les mêmes en fait. On n'a jamais changé. Depuis le début de Knucklehead, toutes les réalisations sont faites par les mêmes.
D'accord, donc ça permet d'accélérer le processus, ils savent ce que vous voulez, vous savez comment il fonctionne.
Ouais, bien sûr, et puis l'entente est top aussi, on travaille beaucoup mieux, du coup c'est aussi un gain de temps. Hein.
En général, bien sûr, fierté du produit final, mais tu le disais, en général, les clips c'est un plaisir à tourner ou c'est plus une galère qui est nécessaire, mais une galère?
Ça dépend, c'est toujours un plaisir de tourner, mais des fois c'est très compliqué, comme par exemple la scène... où il y a les costumes, où il fait 38 degrés, quoi. Du coup, ouais, dehors, on crève, quoi. C'est super complexe.
D'accord. Et il y a d'autres choses qui sont prévues donc dans les tuyaux?
Eh ben, on est en train de travailler sur son clip, le chapter 2. Donc, on est en train de voir un peu ce qu'on va faire. Mais on s'est dit que quand on a sorti le clip, faire un chapter 1, on était déjà super motivé à pouvoir donner une suite. Et du coup, y a plein de choses que tu vas pouvoir comprendre avec déjà les deux premiers clips restants. Enfin, les deux premiers clips pour la sortie du nouvel album, quoi.
D'accord. Et vous avez aussi sorti sur YouTube un teaser, là, justement, des concerts à venir.
Oui.
C'est un truc auquel vous réfléchissez, de faire des captations live?
On en a déjà une qui a été faite et donc du coup on veut pas trop tout montrer tout de suite, mais ouais, ce sont des choses qui vont être mis en valeur sur les réseaux, bien sûr.
D'accord.
Dans pas très longtemps.
Une question d'Alsacien à un autre Alsacien, en termes de business, la proximité avec deux pays métal et rock, Suisse et Allemagne, c'est un coup de main ou c'est une galère? Enfin, est-ce que ça peut vous aider ou pas vraiment?
C'est un énorme avantage, bien sûr. C'est un énorme avantage. Là, on est en train de voir maintenant avec le temps pour consacrer à l'Allemagne. On a commencé à toucher la Suisse. On a un très gros fest en Suisse qui a été annulé à Luzerne parce que le patron est tombé malade. Ah. Du coup, ils ont annulé la programmation pour le faire pour 2023. Mais bien sûr, c'est un très gros avantage. C'est le meilleur avantage d'ailleurs qu'on puisse avoir de tous les Français.
Parce qu'en tant qu'Orinois, enfin, on va tous à Pratteln pour voir un peu ce qui se passe, quoi.
Exactement. Z7, ça reste une très belle salle, hein, c'est sûr. Hein.
Et donc vous arrivez maintenant que le groupe a atteint une certaine notoriété puis un bel album avec lui, vous arrivez à prendre des contacts dans les deux pays pour pouvoir éventuellement donc multiplier les dates et sortir de l'Hexagone.
Oui, de toute façon, bon, c'est après c'est plus notre travail, hein. Aujourd'hui c'est Dominique Bérard qui s'occupe de ça, mais il fait son, très bien son travail, on en a déjà parlé, c'est dans les temps à venir, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, on se comprend tous, hein. On est tous sur la même longueur d'onde, en tout cas.
Bon, bah c'est cool. Dernière question pour boucler cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent?
Je dirais pas le succès, mais toujours le même bonheur avec lequel on s'investit dans ces choses-là. Parce D'accord. que c'est toujours un plaisir pour nous.
Et un petit scoop, il y a déjà des, vous commencez déjà à avoir des choses pour la suite de après All Stars and Ritual, vous savez déjà un peu, il y a déjà des titres qui sont bien avancés ou
Je peux pas dire.
Ok, bah écoute, en tout cas merci d'avoir pris le temps. On va continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux pour voir l'aventure du groupe en concert pour ceux qui peuvent y aller. Ils ont raison, ça c'est un beau spectacle. Et puis bah merci d'avoir pris le temps de nous répondre et puis bah le meilleur pour la suite.
Eh ben merci à toi et puis je te fais une grosse bise alsacienne.
Ça marche, à bientôt.
À plus, ciao.